Et toute l'équipe de La Tête au Carré, donc en direct pour cette nouvelle édition du Salon du Livre de Paris. Et bonjour à vous, amis du public présents ici nombreux pour assister en direct à l'émission. Soyez les bienvenus jusqu'à 15h pour accueillir nos invités, pour discuter de la science dans le monde de l'édition, en particulier du compagnonnage entre le dessin justement et la science. Il sera beaucoup question de physique, d'astrophysique, mais également de requins et d'intelligence artificielle. Vous nous rejoignez où que vous soyez avec vos messages. Ici même d'ailleurs dans le public, si vous avez des questions à poser à nos invités, nous aurons un micro à votre disposition. Par mail, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré, préparée par Emmanuel Fournier.
La Tête au Carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et les invités donc en direct du livre Paris 2016, la physicienne Sandrine Laplace, l'illustratrice Marion Montaigne, l'astrophysicien Hubert Reeves, le physicien Thibaut Damour, le dessinateur Mathieu Burnia et le biologiste marin Bernard Serret. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les six.
Bonjour.
Bienvenue Sandrine Laplace, demain à 12h30, vous donnerez une conférence ici au Salon du Livre sur les nouveaux défis de la plus grosse machine scientifique terrestre, le LHC. Et apparemment, il y a des découvertes extrêmement importantes à venir.
Oui, c'est vrai. Il y a des rumeurs.
Ne soyez pas langue de bois.
Non, on a effectivement en ce moment une grande conférence d'hiver dans laquelle on annonce des frémissements de peut-être une nouvelle particule, mais c'est un petit peu trop tôt pour annoncer une réelle découverte.
Une grosse particule même, grosse paraît-il. Particule. On va en discuter quand même avec vous. Thibaut Damour, quelle époque quand même pour la physique. Le monde quantique comme celui de la relativité générale, d'ailleurs, n'en finissent plus de faire la une. Hein.
Oui, après les ondes gravitationnelles, le monde quantique...
Donc ça se poursuit.
Oui.
Et le monde quantique en BD, on va en parler avec vous dans quelques instants. Mathieu Burnia, justement, est-ce que c'est facile de dessiner le monde quantique ?
Alors dessiner, non, c'est un beau défi, mais c'est surtout pratique pour l'expliquer.
Ouais.
C'est une utilité le dessin.
On va en discuter bien sûr avec vous. Hubert Reeves, qu'est-ce que c'est que la créativité cosmique et artistique ?
Eh bien, c'est ce qui fait que nous sommes ici présents, que nous existons après une longue histoire de 14 milliards d'années.
Et c'est ce lien que vous aimez tant, hein, entre l'art et la science aussi.
Pardon ?
C'est ce lien que vous aimez tant entre l'art et la science aussi dont on va parler.
Hein.
Balade poétique et métaphysique. Marion Montaigne, vous illustrez une bande dessinée sur l'intelligence artificielle. La semaine où on apprend la victoire d'une machine sur un pauvre Coréen qui doit être déprimé à l'heure où nous parlons. Vous avez rencontré beaucoup de spécialistes sur le sujet. Est-ce qu'ils vous ont dit que les robots allaient prendre le pas sur l'homme ?
Au niveau de la conscience, non. Pour ce qui est de la singularité, l'inquiétude que les robots deviennent conscients et nous détruisent, ça, ils lèvent un peu les yeux au ciel.
Ouais, sujet de débat, en tout cas. Bernard Serret, est-ce qu'il y a plus à craindre des robots ou des requins ?
Moi, je navigue dans un univers un peu moins physique que mes homologues. Là. Non, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas à craindre l'univers des requins. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette BD.
Oui, on va en discuter bien sûr tous ensemble, BD avec l'illustrateur Julien Solé. Voilà, on se retrouve dans un instant. Le décor est planté pour cette Tête au Carré en direct du Salon du Livre. GMT Kids à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Voilà toute l'équipe en direct du Salon du Livre de Paris, Porte de Versailles, avec un plateau de rêve pour parler physique, astrophysique, requins, intelligence artificielle et BD avec mes invités, donc les physiciens Sandrine Laplace et Thibaut Damour, l'astrophysicien Hubert Reeves, le biologiste Bernard Serret et les dessinateurs Marion Montaigne et Mathieu Burnia. Vos questions donc sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. La science et la BD plus que jamais, donc un mariage d'amour, hein, on a l'impression, comme on peut le découvrir ici au Salon du Livre, au hasard des éditeurs. Parler des sciences en bande dessinée, donc ça a l'air en tout cas d'être une des manières les plus efficaces pour toucher le public, Mathieu Burnia et Marion Montaigne. Comment avez-vous eu l'idée, vous en tout cas, de vous attaquer à la science au travers de vos crayons? Alors Marion, peut-être pour commencer.
Moi, c'est juste un intérêt que j'ai depuis petite, surtout pour la biologie. Et je trouve que la bande dessinée, c'est tout bonnement visuel, il y a un petit côté... Pas intimidant, contrairement peut-être à un vrai bouquin de physique quantique. Ouais. Je pense que le fait qu'il y ait le support visuel, même si ça doit être très dur, parfois il y a des concepts qui sont très durs à mettre en visuel, permet beaucoup d'analogies, de comparaisons, de métaphores, et le visuel c'est super, ouais, pour ça, pour mieux comprendre, et surtout une manière de dire au lecteur, on te prend par la main et ça va bien se passer.
Ouais. Et l'humour, hein, évidemment, Marion.
Oui.
Hein.
Oui.
Ça, c'est plutôt une bonne aide pour apprendre la science. Ouais. Mathieu Burnia, justement. Alors là, la physique quantique, hein, on va en parler avec vous et Thibaut Damour.
Moi, personnellement, ça fait un petit temps que je m'intéresse à la science, mais plus particulièrement à la physique quantique, parce que pour moi, ça relève des questions scientifiques, mais aussi des questions philosophiques. Ça va au-delà du sens purement pragmatique de la science.
Ouais. Le message scientifique, Hubert Reeves, ça passe mieux incontestablement en bande dessinée?
Bon, ça passe à un autre public. Il y a un public qui lit pas ou très peu, et qui n'est pas accessible, mais qui peut l'être par la bande dessinée. Ouais. Pour moi, c'est l'intérêt, c'est d'ouvrir un nouveau public, une autre possibilité de donner des informations, des connaissances.
Oui, il y a encore des gens dans le public que vous n'avez pas réussi à toucher, Hubert Reeves, on peut se demander.
J'aimerais bien penser le contraire.
Vous êtes très gourmand, finalement. Hein. Bernard Serret, il y a beaucoup de messages aussi qu'on peut faire passer via la bande dessinée. Hein. C'est le cas pour les requins, par exemple.
Oui,
hein.
Bon, moi, j'ai fait la vulgarisation scientifique depuis longtemps, mais je trouve que dans la BD, si vous voulez, pour instruire efficacement, il faut plaire. Et la BD, c'est vraiment un support idéal. Et comme le dit Hubert, on va toucher un public beaucoup plus large qui n'a peut-être pas l'habitude de lire des livres un petit peu ardus.
Donc vous êtes des scientifiques séducteurs, si je comprends bien, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Je pense, ouais, que le rôle d'un scientifique, c'est pas seulement de chercher dans sa tour d'ivoire ou de trouver éventuellement, c'est de transmettre aussi son savoir. Ouais, dans cette collection-là, justement, c'est de transmettre du savoir.
Ouais. Thibaut Damour, alors pour vous, c'est une nouvelle aventure aussi, la bande dessinée?
Oui, une nouvelle aventure qui est d'ailleurs née à la tête au carré en 2012. Et c'était pas tellement l'idée d'atteindre un nouveau public, mais d'utiliser les possibilités graphiques pour vraiment visualiser, sans équation, sans concept abstrait, ce qu'est le monde quantique, qui est fait de superpositions de réalité. Et là, la bande dessinée, l'utilisation de la couleur était un élément essentiel. Donc là, la science et le graphisme se sont retrouvés pour un but commun.
Oui. Vous avez superposé des dessins, Mathieu, pour dessiner le quantique?
Oui, alors pas tout seul, c'était aussi à l'aide de mon ordinateur qui fait des miracles en dessin lui aussi.
Ouais. Sandrine Laplace, on ne va pas parler de dessin avec vous, mais de contact avec le public, là aussi, pour expliquer des choses parfois un petit peu ardues, qui sont les particules élémentaires, avec le LHC où vous travaillez. Vous offrez une conférence demain, d'ailleurs, ici, au Salon du Livre. Comment vous expliquez votre présence ici, finalement?
Déjà parce qu'il y a un livre derrière qui n'est pas tout nouveau, mais qui date d'une année, qui essaye d'expliquer, qui était un dialogue en fait à travers quatre personnes, quatre physiciens, pour expliquer ce que sont les deux infinis, ce qu'on appelle les deux infinis, donc l'univers et l'infiniment petit, les particules. Et ce livre, est la base effectivement d'une série d'occasions d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, ce qui est, oui, pas toujours facile.
Mais alors vous, c'est ça, parce que vous n'avez pas le biais du dessin, par exemple, hein, pour vulgariser, populariser vos propos. Donc il faut faire appel à d'autres talents.
Oui, on peut utiliser des anecdotes, des images, des exemples qui sont loin de la physique des particules, mais qui permettent d'expliquer des choses effectivement, qui viennent d'un domaine pas visible avec les yeux. Donc c'est très dur de faire sentir ce qui se passe dans l'infiniment petit avec des images à notre échelle.
Hubert Reeves, comment vous expliquez que le grand public s'intéresse à des thèmes les plus difficiles de la science, justement? Parce qu'on le remarque aussi à la Tête au Carré, quand on fait des émissions sur la matière noire, sur les trous noirs, sur la mécanique quantique, sur les ordinateurs quantiques, par exemple, ça marche toujours très bien. Et pourtant, c'est difficile à comprendre.
Il y a une vieille tradition de s'intéresser à ses origines. D'où venons-nous? Comment ça se fait que nous sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le monde des étoiles, des galaxies, pour que nous soyons là avec notre gros cerveau et notre capacité de comprendre? Et ça, je pense que la science aujourd'hui nous donne des informations intéressantes sur ce sujet et qu'il y a une curiosité fondamentale chez les gens. Les gens aiment, nous aimons savoir d'où nous venons.
Ouais, donc on a ces questions qui sont ancrées très profondément en
je
nous.
Crois, oui.
Et aujourd'hui,
c'est
peut-être une page de l'histoire aussi, peut-être de la science, qui nous permet plus que jamais de donner des pistes intéressantes aussi à ces
je
questions.
Je crois que la cosmologie contemporaine nous apprend des choses très intéressantes en nous racontant justement l'histoire de l'univers, ce que nous ne connaissions pas. Nous n'avions même pas l'idée qu'il y avait une histoire de l'univers. C'est une des grandes découvertes. Et justement que dans cette évolution de l'univers, nous sommes un des chapitres. Ouais. Donc c'est le retour aux origines, on peut dire. La nostalgie des origines.
C'est ça. Thibaut Damour, c'est vrai nous sommes dans une très grande époque fructueuse, très intéressante. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure avec la physique des particules. On l'avait évoqué avec les ondes gravitationnelles ensemble il n'y a pas si longtemps sur cette antenne. Tout se bouscule en ce moment, non?
Oui, et les dernières découvertes de cosmologie ont montré aussi, dans l'analyse des fluctuations de température du fond du ciel, que l'origine de ces fluctuations, et donc l'origine de tout ce qui existe, de la matière, de notre galaxie, est quantique. Et comme en physique quantique, en fait, il n'y a pas une seule histoire, mais une superposition d'histoires, il est intéressant de s'habituer à l'idée que nous ne sommes qu'une des tranches possibles d'une réalité infiniment plus riche.
Oui, mais c'est pas facile à comprendre pour notre cerveau humain quand même.
Oui, mais la bande dessinée, on a donné un exemple, il y a plusieurs histoires qui se superposent, et donc on peut faire sentir, grâce au graphisme, des choses qui auraient l'air très complexes.
Ouais. Marion Montaigne, j'ai le sentiment aussi qu'il se passe beaucoup de choses sur les sites francophones qui traitent de BD, avec aussi des plateformes communautaires qui regroupent des productions de plusieurs blogueurs qui ont, comme vous, des affinités avec la science.
Mais je pense
il y a toute une génération là qui est très active.
Mais je pense que c'est aussi grâce à Internet où on peut contacter plus facilement des gens qui nous paraissaient complètement inaccessibles avant. Moi, je peux avoir accès à des spécialistes et eux et des spécialistes me contactent grâce à Internet. Et donc il y a une ouverture vers le monde qu'on n'avait pas maintenant. Et je pense que aujourd'hui les gens comprennent qu'il faut qu'on est à une période un peu critique où on va devoir se poser des questions au niveau écologique, économique, et qu'il faut qu'on comprenne à une échelle mondiale, vraiment globale. Et donc, on essaye de tout comprendre vraiment de manière très large. Et je pense que tout ça, les ondes gravitationnelles, c'est extrêmement large, mais ça participe à cette envie de comprendre tous les systèmes ensemble. Et les auteurs de BD, c'est juste que je pense qu'ils sont comme tout le monde, ils ont envie de le véhiculer parce que grâce à ces gens-là qu'on rencontre, nous, on est l'interface qui allons rendre ça accessible encore plus.
Hubert Reeves, vous allez jusqu'à dire qu'il faut même qu'on s'inscrive, qu'on trouve une place dans l'univers tout entier, qu'on a un rôle à jouer au fond, pas seulement sur Terre.
Je le pense, c'est mon opinion.
Ouais. Mais quelle place on peut avoir alors dans un domaine aussi vaste que ça?
C'est d'aider les gens à vivre. La science me paraît intéressante en autant qu'elle aide à vivre. La vie est difficile, on le sait, et en autant qu'on peut faire quelque chose qui nous aide, nous et les autres, à vivre, moi, c'est ça qui m'importe.
Alors, Thibaut Damour et Mathieu Burniard, parlons du mystère du monde quantique aux éditions d'Argo. Comment ça, cette histoire est née à la Tête au Carré, Thibaut Damour?
Eh bien, en 2012, donc, vous m'aviez invité à participer à une émission, et en rentrant dans mon bureau, j'ai reçu un courrier électronique de Mathieu qui m'a dit « Voilà, je vous ai entendu, je serais intéressé à discuter éventuellement, la physique quantique m'intéresse. » Et j'ai répondu immédiatement parce que j'ai senti qu'il y avait un intérêt réel. Et aussi, Mathieu venait de sortir sa première BD, Shrimp, et donc j'ai vu que graphiquement, il pouvait tout faire. Donc là, je me suis dit « on a les bonnes bases pour aller vers un projet qui m'intéressait avant.
Alors c'est
la physique quantique.
Oui. Et vous aviez aussi envie de faire appel à la bande dessinée depuis longtemps, Thibaut Demour ?
J'avais rencontré Moebius à un moment, qui était intéressé, mais Moebius est parti vers d'autres projets et est mort d'ailleurs dans l'intervalle. Et donc c'était effectivement un intérêt personnel, donc j'ai réagi immédiatement.
Oui. Pourquoi Mathieu et Marion, cet échange de regards et de sourires à l'évocation du nom de Moebius ?
Parce que Moebius, c'est un petit peu le maître, le vieux pont de la bande dessinée, donc...
Chapeau,
Mathieu. Je suis pas mécontent de le succéder pour travailler sur cette BD.
Ouais. Alors Thibaut Damour, donc vous décrochez votre téléphone, enfin vous envoyez ce message et vous lui proposez donc de travailler sur la physique quantique.
Alors en fait, au départ, j'ai même pas imaginé lui proposer de travailler avec moi. Je voulais juste lui poser quelques questions, espérant qu'il veuille bien me répondre. Et il m'a tout simplement dit que c'était un travail à faire à deux et que je devais m'associer avec un physicien pour ça. Ouais. Et donc j'ai accepté avec plaisir, bien sûr.
Ouais. Et ça a été de longues années de travail quand même. Hein.
Oui, 3 étés de suite à discuter pendant des semaines chaque été pour d'abord échanger des informations, partager quelque chose, une culture scientifique. Et puis après, essayer de trouver une façon de mettre en image. Et je sais que jusqu'au dernier moment, à un moment, on a désespéré. J'avais écrit déjà 1 ou 2 scénarios. Mathieu disait non, c'est trop compliqué. On n'avait pas le truc. Et puis le déclic a été quand on a trouvé l'idée des 2 personnages, Bob et Rick, un détective avec son chien. Voilà. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est parti. On va tout recommencer à zéro. Et très rapidement, en quelques jours, au coin du feu, chez nous à la campagne, on a réécrit... Enfin, Le départ est parti et après il y a eu.
Ah, c'est ça, vous habitez ensemble depuis en fait.
Non,
c'est
non.
Ça.
Alors en fait, non, maintenant ça va devenir une tradition. Thibaut m'invite dans sa maison de campagne tous les étés pour discuter physique quantique.
Très bien.
On pourrait ouvrir un café.
Un café
littéraire,
quantique. Ouais. Pourquoi le mystère de la théorie quantique justement ? Qu'est-ce qui reste de mystérieux ?
En fait, il y a un vrai mystère en ce sens que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le sens à donner au monde quantique, à la physique quantique. Tout le monde est d'accord depuis 1925 sur les équations. Tout le monde saura dans le monde entier, s'il s'agit de faire un calcul, quelle est la probabilité que telle réaction de particules se passe, tout le monde sera d'accord. Mais s'il s'agit de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un chat à moitié mort, à moitié vivant ? Qu'est-ce que ça veut dire une cosmologie quantique ? Là, les opinions diffèrent. Il y a des gens qui gardent une tradition qui date de Niels Bohr de 1927 et qui disent non, ça me suffit. Et puis, il y a d'autres, dont je suis, qui pensent qu'il faut aller au-delà et suivre ce qu'un jeune Américain qui a entendu la dernière conférence d'Einstein le 14 avril 1954 a eu le courage de penser, qui est qu'il faut suivre les équations mathématiques de la physique quantique pour les interpréter en termes de nouvelles réalités faites de superpositions de réalités. Et donc, quand, à la suite d'un phénomène quantique, un chat est à moitié mort et à moitié vivant, et que, d'habitude, on dirait il a une probabilité de 50% d'être mort, mais soit il est mort ou à 50% il est vivant, ce qu'Einstein disait, il y a un problème, ou alors, en fait, on dit, en fait, le monde est fait d'une superposition, comme un film surimpressionné, comme si on allait voir le film d'Alain Resnais Smoking, No Smoking, mais au lieu de voir séparément Smoking et No Smoking, on projette sur le même écran de cinéma les 2 films en même temps, donc on voit des personnages avec 2 histoires superposées.
Donc vous êtes en train de nous dire que nous avons des vies parallèles, Thibaut Damour ?
Oui, c'est ce que dit le formalisme de la mécanique quantique. Et ça paraît, pour beaucoup de gens, ça paraît absurde. Ils disent non, vous n'allez pas aller jusque-là tout de même.
Ouais.
Mais en fait, je pense que ça n'est pas plus absurde que quand Copernic a proposé que la Terre bouge. Parce que le mouvement de la Terre, c'est 100 000 km/h. Et donc, pour quelqu'un de l'époque de Copernic ou, pire, de Ptolémée, des Grecs, dire que nous bougeons actuellement, nous tous, là, à 100 000 km/h, oui. Alors que si vous êtes sur un vélo à 20 km/h, déjà tout tremble, oui. Vous direz non, c'est impossible, c'est pas sérieux, la Terre ne bouge pas, le sol évidemment est fixe. En fait, c'est une illusion. Et il a fallu construire une nouvelle physique. Et de même, la physique quantique montre qu'il y a ces superpositions, mais on ne s'en rend pas compte. Et la BD explique ça par des images uniquement. Il n'y a pas d'équation, que des images.
C'est très réjouissant, Hubert Reeves, non, hein, d'imaginer cela quand même. Là, on est déjà dans la poésie, moi, je trouve. Imaginez qu'on puisse avoir plusieurs vies superposées.
Je ne sais pas très bien, je n'ai pas vraiment d'opinion sur cette question.
Non, je ne peux pas vous croire. C'est vrai ?
Si.
Mathieu, dessiner ces superpositions, c'est quoi ? C'est le recours à la couleur, justement, qui vous a permis de le faire ?
Oui, ça, c'était une idée de Thibaut dans un de ses livres précédents. En fait, la physique quantique nous apprend que nous vivons dans un monde qui est fait d'ondes. Ces ondes sont capables de se... On parle d'ondes psi, et donc sont capables de se démultiplier. Et ces ondes aussi doivent être représentées par un nombre complexe. Et un nombre complexe, on peut l'illustrer par une couleur. Et donc, quand on a voulu surimpressionner des réalités différentes, au fur et à mesure du récit, on a amené des couleurs pour enchevêtrer ces différents mondes surimpressionnels.
Et vous avez fait rencontrer, évidemment, tous les grands héros de cette aventure quantique, oui, hein, Thibaut Damour, parce qu'on les croise tous dans cette BD. Hein.
Les principaux. Ouais. Je sais que j'ai reçu un message de quelqu'un me disant « Mais pourquoi Dirac n'est pas là ?» Bon, on ne pouvait pas avoir tout le monde, mais il y a Planck, il y a Einstein, il y a De Broglie, il y a Heisenberg, et surtout, ils sont tous dans des situations réelles ou quasi réelles. Par exemple, on rencontre Heisenberg le matin de la célèbre nuit sur l'île d'Heligoland, où, parce qu'il avait eu une crise d'asthme, il est venu se réfugier parce qu'il n'y avait pas de pollen, et il a découvert l'essence de la mécanique quantique pendant la nuit, et le matin, il est monté sur un rocher pour voir le soleil se lever. Et là, on arrive, nos héros arrivent le rejoindre.
Ouais, et c'est une histoire d'aventure, parce que ce qu'on voit vraiment dans cette BD, hein, c'est qu'on a affaire à des sacrés aventuriers quand même. Hein.
Mais en fait, la physique quantique est elle-même une aventure, et donc elle nous a vraiment servi de support pour raconter une histoire. On l'a fait de manière chronologique, on a suivi chronologiquement tous les grands physiciens de cette époque, et ça nous suffisait presque à raconter déjà une super aventure. On a ajouté des ingrédients à nous pour qu'il y ait un début, une fin, et que ce soit réjouissant, et qu'à la fin... Ouais. On se soit un peu saisi de vertige, on va dire.
Ouais, c'est
et
ça.
De l'humour, parce qu'il y a le vertige, mais il y a aussi l'humour. Je
veux dire. Et l'aventure, donc, au cœur de cette physique quantique, et le mystère du monde quantique avec cette photo du congrès Solvay de 1927, qui est un petit peu le point de départ, d'ailleurs, de votre personnage. Il y avait qui sur cette photo, Thibaut Damour ?
Qui, pardon ?
Sur cette photo de Solvay.
Oui.
Qui était représenté ?
Alors là, tout le monde, en 1927, tous nos Einstein, Planck, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, d'autres, ils y étaient tous, Dirac. Voilà.
Et c'est le point de départ donc du mystère du monde quantique. Thibaut Damour et Mathieu Burnia, c'est chez Dargo et vous restez avec nous. On va poursuivre notre discussion. Requin, intelligence artificielle et physique des particules.
Thank you.
Malanguet, Christine Salem à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Allez, la suite de notre club en direct donc du Salon du Livre de Paris. Sandrine Laplace, Marion Montagne, Hubert Reeves, Thibaud Damour, Mathieu Burnia et Bernard Serré. Sandrine Laplace, vous êtes donc physicienne, chercheuse au CNRS, laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies de Paris. Et vous êtes membre de l'expérience Atlas au CERN, l'un des deux détecteurs à avoir justement mis la main sur le boson de Higgs. Vous avez participé donc aux différentes étapes qui ont permis la découverte de ce boson, cette particule élémentaire annonce faite en 2012. Et donc vous serez demain ici au salon à 12h30 pour animer une conférence qui aura pour thème les nouveaux défis de LHC. Alors le LHC, parce qu'on en parle souvent, mais peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas encore ce que c'est une machine complètement folle. Hein.
C'est une machine complètement folle, qui a été inventée il y a plus de 20 ans. Donc c'est des projets vraiment qui prennent les vies des physiciens, la vie entière d'un physicien. Et c'est une grande machine qui est un accélérateur de particules. Donc on a construit un anneau qui fait 27 km de circonférence vers Genève.
Sous la frontière franco-suisse.
C'est ça, à 100 mètres sous terre. Et on fait entrer en collision dans cet anneau des protons à très 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 haute énergie. Ils vont quasiment à la vitesse de la lumière. Et en faisant ça, en quelque sorte, on casse ces protons, c'est un petit peu naïf de dire ça, et on crée éventuellement de nouvelles particules. Par exemple, on a créé, au début du LHC, de nombreux bosons de Higgs qui nous ont permis de le découvrir.
Ouais. Et donc, on va partir tout de suite au CERN de Genève, un court reportage pour se rendre compte un petit peu de quoi il s'agit, avec Magali Gruet, qui est ingénieure responsable de la mise en service, justement, du LHC.
Alors, on arrive dans le tunnel même du LHC, donc les 27 km... de circonférence. De ce côté-ci, un mur, on a l'impression que ça s'arrête. En fait, de l'autre côté, il y a l'expérience Atlas.
Et là, on voit donc comme un, comment on pourrait dire, une espèce de tuyau, pas très impressionnant, comme un tuyau d'eau, quoi. Puis
tout
autour,
fait,
il y a des aimants rouges, c'est ça?
Alors, les aimants pour faire circuler les particules, et puis les tuyaux qui permettent de refroidir le LHC. Ici, c'est un tuyau unique, le tube à vide, avec les faisceaux de particules qui circulent dans les deux sens, dans ce même tuyau.
Là, on est dans un même tuyau parce que c'est là où les particules, on va leur demander de se rencontrer, de faire un accident, quoi.
100 mètres plus loin se trouve l'expérience. Donc effectivement, on va envoyer les particules, les deux faisceaux de particules, l'un sur l'autre. Et donc, ils doivent circuler dans le même tuyau. Ça fait un accident, comme vous dites, une collision de particules.
Voilà, Sandrine Laplace. Donc, c'est une belle tuyauterie, finalement, hein, le LHC.
Ah oui, il y a des kilomètres et des kilomètres de tuyaux.
Ouais. Alors, le boson de Higgs, c'était dans la première phase de la mise en service, justement, du LHC, parce qu'on a compris que cet accélérateur de particules avait besoin de pauses de temps en temps pour resserrer un petit peu les boulons, c'est ça?
Oui. Alors, le LHC, il avait deux grands objectifs. Le premier objectif, c'était effectivement découvrir le boson de Higgs, qui est une particule qui a été prédite il y a 50 ans. Et qu'on a cherché auprès de nombreux prédécesseurs du LHC sans jamais le trouver. On manquait soit un petit peu d'énergie, soit on manquait de nombre de collisions. Et là, au LHC, on avait les deux à la fois. Donc, on a enfin réussi à mettre la main dessus. Donc, ça, c'était la confirmation de quelque chose qu'on connaissait déjà depuis très longtemps. Et le deuxième grand objectif, c'est effectivement de répondre à d'autres nombreuses questions qu'on a sur les infinis, à la fois l'univers et l'infiniment petit. Et c'est de trouver ce qu'on appelle de la nouvelle physique, c'est-à-dire des nouvelles particules dont on est quasi sûr qu'elles existent, mais on ne les a toujours pas observées jusque-là.
Ouais. Le boson de Higgs, c'était quoi? La dernière pièce manquante d'un grand puzzle du modèle standard, c'est ça?
Oui. En fait, pour expliquer toutes les expériences qu'on a pu faire depuis des décennies sur l'infiniment petit, donc en collisionnant des particules, on a un modèle théorique qui s'appelle le modèle standard et qui a vraiment permis d'expliquer 100% de nos observations. Par contre, quand on confronte donc ce modèle standard, il a un certain nombre de particules du coup qu'on connaît bien. Et quand on fait la somme de ces particules dans l'univers, on se rend compte qu'elles rendent compte de 5% de l'univers et 95% du reste de l'univers, on n'a aucune idée de quoi c'est constitué.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire. Et donc on est sûr qu'il y a d'autres types de matières qui existent, qu'on ne connaît pas et qu'on cherche aussi auprès de l'accélérateur.
Hubert Reeves et Thibaud Damour, vos disciplines aujourd'hui bénéficient, on le voit, hein, de technologies de plus en plus avancées avec des outils extrêmement impressionnants. Et ça change tout justement dans la connaissance scientifique qu'on peut avoir de la physique.
Ça permet de nouvelles additions, ça permet de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. On est loin de tout comprendre, mais on progresse. la science progresse. Maintenant, nous découvrons de nouveaux chapitres de l'histoire du cosmos qui sont importants. Donc, c'est en ce sens que tout ça se tient ensemble.
Ouais. Et plus on perfectionne les outils, Hubert Reeves, et plus on ira loin, justement, dans l'histoire de notre univers aussi?
Jusqu'où on ira, personne ne le sait. Ouais. Jusqu'où est capable l'esprit humain, personne ne le sait. C'est en avant.
Ouais. Est-ce qu'on ira au-delà du mur de Planck, Thibaut Damour?
Oui, on espère que le CERN va découvrir une nouvelle couche de la nature qui est liée à ce qu'on appelle la supersymétrie. Et si on découvre la supersymétrie, ça indique sans doute qu'il y a une superversion de la théorie d'Einstein qui, elle, devrait permettre de décrire l'apparition du Big Bang à partir de rien, d'un état vide, si possible.
Ouais, et ça manque. Hein. Pour l'instant, on est incapable de le faire.
Ça manque. La physique de la gravitation couplée à la matière s'arrête à ce ouais. qu'effectivement on appelle parfois le mur de Planck.
À ce mur de Planck, hein, ouais.
Et pour aller au-delà, il faudrait en savoir plus sur les interactions fondamentales.
Ouais. Sandrine Laplace, que se passe-t-il en ce moment dans ces particules, justement? Il y a une réunion actuellement en Italie, et vous le disiez tout à l'heure, on commence à frémir et on sent, il suffit de voir d'ailleurs un article de Science Avenir aujourd'hui, que les annonces qui vont être faites là dans les semaines qui viennent risquent de révolutionner une fois de plus, parce que malheureusement on emploie souvent ce mot maintenant qui est un petit peu galvaudé, mais ce domaine de la physique des particules va certainement basculer là encore dans un nouveau paradigme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on aurait découvert? Parce que vous le savez déjà.
Oui, je sais, je travaille sur
vous
ça.
Vous le savez, vous êtes sur l'instrument qui a découvert probablement cette particule, grosse particule, c'est ça?
Oui, alors, il faut rester très prudent, hein, parce que encore ouais. une fois, on voit une sorte de petite fumée, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a vraiment un grand feu qui va prendre derrière, ou est-ce que tout ça va s'éteindre? Ouais. On ne sait pas encore. Donc,
bon. Imaginons la bonne hypothèse.
Voilà, la bonne hypothèse est que on va prendre plus de données, donc on va prendre des collisions, on va faire plus de collisions, là, au printemps et toute l'année 2016. Il faut savoir qu'en fait, effectivement, depuis la découverte du boson de Higgs, on a augmenté nettement l'énergie dans cette machine de LHC. Donc on a franchi une sorte de stade supérieur dans l'énergie des collisions. Et dans les premières collisions qu'on a fait à cette nouvelle énergie en 2015, il y en a eu relativement peu, mais il y en a eu suffisamment pour voir les frémissements effectivement d'une nouvelle éventuellement particule qui a une masse très élevée, 750 GeV.
Bon, on vous croit. Très bien.
Voilà, c'est une unité un peu barbare, mais disons que c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on n'a jamais observé jusqu'ici. Et jusqu'ici, c'est un signal qui est trop faible pour qu'on puisse vraiment dire quoi que ce soit. Mais si ça se confirme avec les nouvelles collisions qu'on va faire cette année, ce sera une vraie révolution au sens où, par exemple, découvrir le boson de Higgs, c'était quelque chose qui était très important parce que c'est une idée qu'on a postulée il y a longtemps et qui était au fondement du modèle standard et il fallait la confirmation expérimentale de tout ce postulat derrière. Mmh. Là, ce serait vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, depuis l'annonce de cette particule éventuelle, on a 250 publications qui sont apparues pour essayer d'expliquer ce que ça peut être et pour l'instant, on n'en sait rien.
Ouais, et il paraît que cette nouvelle particule, on ne l'avait même pas prédite. Donc c'est une énorme surprise pour les physiciens.
Alors oui et non. Il se trouve qu'on a, depuis plusieurs dizaines d'années, les théoriciens travaillent effectivement à essayer de prédire ce que peut être par exemple cette matière noire. Et il y a des tas d'hypothèses, des tas de théories sur le marché. Donc en fait, il y a eu des tas de prédictions. La particule qu'on va peut-être trouver, elle va correspondre à une de ces prédictions. Donc c'est pas qu'elle arrive complètement comme ça, comme une grosse surprise. Maintenant, laquelle de ces prédictions, il va falloir accumuler plus de données pour le savoir.
Voilà. Donc quand même quelque chose d'important là qui va se passer, Thibaut Damour, j'ai l'impression, non?
Ah oui, très important. Ouais.
Arrête pas d'employer des superlatifs en ce moment en physique, on n'en peut plus. Hein.
Non, mais en même temps, les ondes gravitationnelles, il y a un côté boson de Higgs, en ce sens, c'était une prédiction d'Einstein de 1916, donc confirmation de choses qu'on savait déjà, mais ça ouvre aussi quelque chose de nouveau en science, qui est l'astronomie des ondes gravitationnelles, une nouvelle façon de voir l'univers. La première preuve qu'il existe des trous noirs dans l'univers... On a vu la fusion de deux trous noirs, c'est la première preuve. Première fois qu'on voit des trous noirs aussi de 30 fois la masse du Soleil. Donc c'est à la fois une confirmation et quelque chose de nouveau. Mais une particule complètement nouvelle, c'est aussi extrêmement important.
Et elle permettrait d'expliquer la matière noire, par exemple?
Elle permettrait d'être... Alors elle-même, probablement non, parce que c'est une particule très massive. Donc c'est pas elle qui constituerait la matière noire. Par contre, elle serait accompagnée d'autres particules, éventuellement extrêmement légères, qu'on n'aurait jamais pu détecter jusque-là et qu'on détectera peut-être jamais, qui peuvent être la matière noire.
Oui.
Donc on attend ces confirmations. Ce sera pour quand, a priori ?
A priori, cet été, on sera capable de confirmer ou infirmer les observations qu'on a faites jusque-là.
Donc ce sera rendu public, hein, parce que...
Évidemment... Alors c'est déjà public, hein, la conférence, tous les résultats qu'on a sortis...
Sur la confirmation, en tous
voilà,
les cas.
Hein. La confirmation ou l'infirmation. Ouais.
Donc demain, on vous retrouve pour une conférence, Sandrine Laplace, 12h30 ici au Salon du Livre.
Tout à fait.
Hein, sur justement les nouveaux défis du LHC. Et on comprend, en vous écoutant, qu'ils sont nombreux. Hubert Reeves, avec le dessinateur Daniel Cazenave. Vous sortez également aux éditions Le Lombard, dans la collection La Petite Bédéthèque des Savoirs, ce livre sur l'univers. On vous voit planant sur la couverture, Hubert. C'est enfin le rêve d'Icare, ça y est,
le
rêve d'Icare de voler, enfin.
Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre cher Daniel.
Voilà, le dessinateur donc de cette bande dessinée qui prend la forme d'une promenade que vous racontez donc à la première personne pour nous dire comment s'est créé l'univers, hein, cette histoire dont on ne se lasse pas.
Pour raconter un peu comment c'est une chose que l'on sait maintenant sur notre univers, c'est quand il est né. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et quand il est né, il était totalement désorganisé. Ouais. Il n'y avait aucune structure. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'apparition progressive des structures, des particules, des atomes, de la vie sous la forme les plus élémentaires. Et ce que nous essayons de comprendre, c'est comment ça s'est passé. Comment s'est faite cette transformation, cette métamorphose d'un magma inconstitué à très haute température en le cerveau humain qui en est peut-être la manifestation la plus avancée. Ouais. On ne sait pas, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Mais en tout cas, à notre connaissance, la manifestation la plus avancée, la plus complexe, la plus performante de la nature, c'est notre tête à chacun d'entre nous.
Ouais.
C'est intéressant de le savoir.
C'est vrai.
Et c'est avec ça qu'on essaie de comprendre comment ça s'est passé. Donc c'est un peu une analogie que je fais entre ce qu'on peut appeler cette pulsion de la nature, d'inventer, mettez la nature entre guillemets, hein. La nature est ludique, elle joue, elle invente toujours des choses nouvelles à partir des choses anciennes, c'est son sport favori. Eh bien, on retrouve dans l'art, dans la création artistique, dans Beethoven, dans Van Gogh, des choses analogues, puisque ces personnes ont cette pulsion de toujours créer des choses nouvelles, même dans des conditions atroces. Beethoven était quasiment sourd, Van Gogh était pas bien du tout, le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pulsion qui fait que quand on demandait à ces gens « Pourquoi est-ce que vous continuez à créer dans cette vie impossible ?» ils répondaient « Parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que si je ne le faisais pas, j'aurais l'impression de mourir. » Ça, c'est une réponse qu'on retrouve un peu partout dans les différentes biographies de ces personnes. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'ils sont dans le prolongement de ce que la nature a toujours fait. C'est un peu une rêverie, on peut dire, autour de ce thème.
Et c'est cette promenade que vous nous proposez, en compagnie justement de ces personnages, entre autres, que vous citez. Dans l'avant-propos, d'ailleurs, de cette bande dessinée, Verise, le philosophe Jean-Jacques Salomon disait que, selon lui, les véritables savants se faisaient de plus en plus rares et seraient même peut-être un jour amenés à disparaître. Le savant est une espèce en voie d'extinction aujourd'hui ?
Il y a une mauvaise tendance, Il y a une tendance de la science à devenir très utile. Effectivement, c'est devenu comme le mode d'emploi. Comment faire ceci, comment faire cela? Et la réflexion sur qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est que cet univers, est-ce que toutes la philosophie qui était très présente au siècle passé devient de moins en moins absente. Le scientifique est devenu quelqu'un d'utile, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de jeunes gens qui ont envie de faire de la science. Il n'y a plus ce qu'on appelait la vocation de savant. Être un savant, c'était une vocation. C'était comprendre le monde. Cela est de moins en moins présent. C'est surtout les ingénieurs, maintenant, qu'on trouve, qui savent faire, mais qui ne réfléchissent pas. Et justement, ce que disait Thibault Damour sur la physique quantique, pendant longtemps, on s'est dit, c'est une méthode de calcul. Ce que ça signifie, je m'en fous.
Oui.
Eh bien, c'est un retour vers cette idée. Oui, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur cette fameuse réalité dans laquelle nous sommes plongés?
Oui. Mais Thibaut Damour, c'est pas très grave, finalement, si on a moins de savants, mais qui nous découvrent les ondes gravitationnelles, des nouvelles particules, le boson de Higgs, tout va très bien, non?
Ce qui est inquiétant, c'est si les jeunes, aujourd'hui, ne vont plus vers la science, parce que ils entendent parfois parler de certaines découvertes intéressantes de la science, mais au lycée, ils n'apprennent rien de solide. Et quand ils arrivent aux dernières années de lycée ou aux premières années d'université, ils se rendent compte que la science n'est pas uniquement un rêve sur l'univers. Mm-hmm. Il faut aussi dominer certaines choses. Et il faut donc pouvoir apprécier la beauté, avoir la vocation de vouloir travailler, parce que être scientifique, c'est aussi un travail dur. Je veux dire, c'est pas juste de vouloir réfléchir le soir sur l'univers. Et donc, nos sociétés vont disparaître, les sociétés occidentales, s'il n'y a pas des jeunes générations qui considèrent que la science est quelque chose d'important. On va être en retard par rapport aux sociétés comme la Chine et l'Inde, où là, les jeunes ont compris que la science, c'est l'avenir.
Ouais. C'est un vrai problème, Hubert Reeves, ce problème de vocation aujourd'hui dans le monde scientifique.
C'est certainement un problème que la diminution des vocations, justement, des gens qui veulent faire de la science et qui aiment mieux faire de l'engineering ou des choses comme ça. C'est ce côté utilitaire qui prend le dessus sur le côté réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire.
Donc, il faut faire de la BD, hein, Marion Montaigne.
D'où notre rôle pour les jeunes.
Pour exciter les plus jeunes, justement.
Pour leur montrer pour les faire rêver, parce que à la base, oui, c'est dur la science, mais donner l'impulsion et leur dire que c'est la connaissance surtout qui va apporter un bien-être, enfin une résolution pour eux en tant qu'humains, en tout cas, c'est tout l'inverse des dogmatismes et des superstitions.
Sandrine Laplace.
Juste peut-être pour ajouter sur j'ai un avis légèrement différent de celui d'Hubert Reeves, c'est que à mon avis la vocation chez les jeunes, elle est là, simplement elle est légèrement découragée plutôt par des actions politiques. Pour donner un exemple concret, les jeunes aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à trouver un poste de scientifique permanent, etc. Donc il y a aussi un effort politique et sociétaire, je trouve, à faire, d'encourager effectivement les jeunes qui, à mon avis, ont la vocation à la base, mais qui sont obligés de la taire un petit peu parce que ça leur fait pas un salaire à la fin du mois. Donc voilà, il y a aussi un projet de société, je trouve, plus global que juste le désir des jeunes.
Hubert Reeves, donc, avec Daniel Cazenave, l'univers. Voilà. Vous avez travaillé vraiment main dans la main, ou au contraire, Daniel Cazenave a fait ses dessins
de son côté? Ils m'ont proposé, est-ce que vous avez quelque chose pour faire une bande dessinée? Je n'avais rien, je ne voyais rien. Puis à un moment donné, je me suis souvenu de ce texte que j'avais écrit. J'ai dit, bon, ben, essayez. J'étais très sceptique sur ce que ça allait donner.
Ouais.
Et puis, quand ils sont arrivés, j'ai été absolument ravi. J'ai dit, c'est vraiment parfait. Il n'y a eu aucune interaction, ou pratiquement. J'ai donné le texte, et puis Daniel Cazenave est arrivé avec ses très belles illustrations. Je ne savais pas que ça pouvait avoir, on pouvait en faire quelque chose d'aussi bien.
Voilà, Hubert Reeves planant, donc, dans ce livre, l'univers est bien entouré, hein, Mozart, Bach, Van Gogh ou Wagner, par exemple. On peut donc découvrir ce livre. D'ailleurs, Bernard Serret, il y a une exposition autour de cette collection, hein, cet éditeur, donc, qui s'appelle Le Lombard, et qui décline donc vos sujets, l'intelligence artificielle, l'univers ou les requins. Et là, il y a une expo au Salon du Livre.
Avec quelques objets d'histoire naturelle, autour de la thématique des requins.
Ouais, on va en parler dans un instant avec vous. Le temps d'échanger avec Marion Montaigne. Et tiens, on va brancher Arte, par exemple.
Qui tutoie les prix Nobel et les savants? Qui ferait très bien voyager dans le temps? Qui arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du bocal? Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Qui contacte-t-on pour poser une question?
Le professeur Moustache.
Voilà, Marion Montaigne vue à la télé. Hein, maintenant, on peut dire ça. On peut vous poser le sticker.
Voilà, c'était en janvier-février.
C'est ouais, ça, tu mourras moins bête.
Sur Arte, oui.
Ça, c'est aussi une belle aventure pour vous, pour le coup, hein, de passer version télé.
Ah bah c'était super, en plus, en prime time. Et c'est pareil, c'est toucher un autre public. Là, on l'a plus jeune, plus varié, qui connaissait pas les BD. Et là, on a fait de la science à la télé.
C'est
ça. Il n'y en a pas toujours beaucoup.
3 fois 30 épisodes.
Voilà.
Hein, 3 minutes.
3 minutes.
Hein, 30 c'est ça. Charlie demande, est-ce que les scientifiques que vous êtes, là, autour de la table, lisent des BD de science-fiction, justement, Thibaut Damour, hein?
Des BD de science-fiction? Non, j'avais lu Logicomics, c'est une BD sur la théorie des ensembles, donc quelque chose d'abstrait, mais qui était une très belle BD d'introduction au problème des mathématiques.
Ouais. Et Hubert Reeves, le roman de science-fiction, c'est un genre qui vous intéresse?
Non, pas vraiment.
Non. Bon, très bien. Sandrine Laplace, de votre côté?
Je lis des BD, oui, pas vraiment de science-fiction, pour être honnête.
Bon, et Mathieu Borgna? J'imagine que oui, quand même.
Moi, les romans de science-fiction, surtout. Ouais.
Ouais. Marion, vous, de votre côté, là, c'est l'intelligence artificielle, hein, votre collaboration, justement, toujours chez cet éditeur Le Lombard. Sous-titre Fantasme et réalité. Donc, vous vous penchez sur l'histoire, justement, et tout ce qui tourne autour de cette intelligence artificielle. Ça tombe vraiment à point nommé, hein, dans cette actualité où on débat beaucoup, justement, des enjeux de la machine sur l'être humain.
Voilà, avec le co-auteur Jean-Noël Lafargue, on a regardé un peu tout ce qui se passait, et de fait, quand on a fait le livre, on savait que ça allait évoluer, même à la sortie, qu'il y aurait des choses nouvelles. Mais en gros, vous voyez beaucoup de choses sur Internet, des robots qui gagnent au jeu de Go, d'autres quadrupèdes, si vous regardez des vidéos de la DARPA, oui. Qui marchent tout seuls, on les pousse, ils se relèvent, etc. C'est assez terrifiant si on les imagine avec une mitraillette sur le dos. Et tout ça, on est allé voir des scientifiques en disant, mais alors, est-ce que demain... ils vont être conscients, ils vont tous nous tuer parce que il y a Stephen Hawking, Elon Musk et Bill Gates qui ont déclaré que ce serait très dangereux qu'ils deviennent conscients parce qu'ils se retourneraient contre l'humain et nous élimineraient. Et en fait, les scientifiques disent qu'on en est assez loin, qu'il faudrait déjà qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est la conscience. Alors après, le robot qui a gagné au jeu de Go, il est très fort, mais est-ce qu'il aime jouer au jeu de Go? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il sait qu'il joue?
Mais qui est fort d'ailleurs? Est-ce que c'est le robot? Est-ce que ce sont les ingénieurs justement qui l'ont programmé
Oui, c'est toute la question. Alors il est très fort parce qu'il a en même temps beaucoup de jeux déjà joués en mémoire, mais il arrive aussi à un raisonnement. Mais c'est pas encore de la conscience. Mais y a des gens qui s'interrogent qui est responsable de quoi. La Google Car, quand elle aura un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est vous?
Pour le constat, ça va pas être facile. Hein.
Est-ce que c'est Google? Ça va être compliqué.
Effectivement. Thibaut Damour, oui, sur ces questions de conscience, de la robotique, de l'intelligence artificielle, là, on est face à des problématiques assez nouvelles là aussi pour l'être humain, non?
En même temps, le problème de la conscience est là depuis toujours. Depuis la science, depuis les Grecs, a donné une image scientifique de la réalité et il est difficile de savoir à quel moment on sait que l'on a appréhendé ce qui fait notre humanité ou d'ailleurs notre animalité, parce que pour moi je ne fais pas de différence entre la présence des animaux et la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire la présence du présent? Que quelque chose, il y a du « il y a », comme disait Parménide. Cette question philosophique, tant mieux si le développement de la robotique permet de l'approfondir, mais je pense qu'elle reste une question philosophique.
Ouais. Est-ce qu'on va se trimballer avec une clé USB dans le crâne, Marion Montaigne, dans l'avenir?
Oh, bah, y a des transhumanistes, si ça les fait vivre de 100 ans, oui, ils sont prêts à... Mais il faut faire attention, il y a beaucoup de transhumanistes, ils bricolent beaucoup, ils se font beaucoup d'infections. Vous avez des photos sur Internet où ça se passe pas très bien.
Ouais.
Ils se collent des trucs sur la peau.
Mais vous avez un beau personnage qui a sa clé USB sur le crâne, justement.
Mais les robots, alors ça va.
Ça va, oui, effectivement. L'intelligence artificielle peut nous permettre de voyager dans le passé aussi
La BD, en tout cas. Oui. Pour l'instant, non, mais moi,
vous
en l'imaginez. BD, je fais ce que je veux. C'est pour ça que
c'est, ça.
C'est possible.
C'est votre liberté,
voilà,
et donc vous en profitez... évidemment. Alors c'est en ce moment donc ce livre, puisqu'il sort de l'intelligence artificielle. Vous avez fait votre signature déjà, Marion?
Oui, c'était hier.
Voilà. Par contre, vous serez sur le stand d'Arte, je crois,
demain
hein, pour rencontrer donc les téléspectateurs qui ont peut-être adoré « Tu mourras moins bête ». Voilà, on vous attend donc demain. C'est de 13h à 15h en dédicace Marion Montaigne et puis le tome 4 du professeur Moustache qui étale sa science et c'est chez Delcourt.
Si un jour en nageant vous rencontrez un requin, plongez-lui sur le museau. Vous avez 98% de chances de le voir se sauver. Les deux mauvaises chances, c'est le requin qui a déjà boulotté un bonhomme, qui sait que c'est bon et qui en remangera. Ça, c'est les deux mauvaises chances. Seulement, ne croyez pas que je plaisante, c'est ce qui fait que les requins de plage sont beaucoup plus dangereux que les requins de haute mer. Les requins de plage ont déjà mangé de l'homme, ils savent que c'est bon et que ça se défend mal. Ça fait partie du gibier qu'ils connaissent. Tandis que le requin de haute mer, il connaît pas. Et il est très rare qu'un animal attaque un autre animal qu'il ne connaît pas et dont il ignore la défense, surtout si cet animal ne se sauve pas. Alors, le requin arrivait, et puis je me sauvais pas, il se disait, s'il se sauve pas, c'est qu'il n'a pas peur. Et puis au bout d'un certain temps, je lui donnais des grands coups d'aviron sur le nez, et ça suffisait à le faire se sauver.
Bernard Serré, vous avez reconnu cette voix ou pas?
Non.
Alain Lombard, qui parlait des requins.
D'accord.
Voilà. Vous êtes d'accord avec ce qu'il raconte ou pas?
Pas tout à fait, non.
Ben non, j'imagine. Ouais. Hein.
Alors, mon univers, il est un peu plus terre-à-mer que les sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent.
Ben, ça nous fait du bien aussi de retourner dans les océans, surtout avec ces espèces.
Mais il y a aussi des questions métaphysiques qu'on se pose aussi.
Hein. C'est vrai, oui. Et surtout que les requins, ben, ce sont quand même des héros de l'évolution humaine, enfin de l'évolution
De l'évolution tout court.
Puisqu'ils ont passé toutes les grandes catastrophes catastrophe environnementale.
Oui, alors, si on définit l'intelligence animale comme la faculté d'adaptation, on peut dire que les requins sont plutôt futés, puisqu'ils ont survécu à 5 extinctions de masse. Ouais. Bon, la sixième, on ne sait pas s'ils survivront. D'ailleurs, on ne sait
mais
pas
nous non plus,
plus
d'ailleurs.
Si on survivra.
C'est mal barré, oui.
Mais bon, ils résistent quand même un petit peu.
Ouais, la BD Au secours des requins, on pourrait dire ça un petit peu avec cet ouvrage alors, avec le dessinateur Julien Solé.
C'est ça. Donc, alors, il y a toujours un message qu'on veut faire passer, mais dans cette BD, ce qu'on a voulu faire, c'est de la connaissance. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de transmettre les résultats des recherches chez les requins de ces 15-20 dernières années. Parce que ça, on ne trouve pas ça dans les ouvrages de vulgarisation.
Et donc, le muséum d'histoire naturelle, c'est là que commence cette histoire aussi, hein.
Alors, oui, j'étais basé au Muséum d'histoire naturelle, mais bon, en fait, j'étais chercheur à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et donc, j'ai travaillé à peu près une quarantaine d'années sur les requins et les raies, puisque d'un point de vue zoologique, c'est la même chose. Les raies, c'est simplement des requins aplatis.
Oui, ça fait combien de temps que les requins font l'objet de recherches scientifiques véritablement?
Alors, disons qu'il y a eu un tournant il y a à peu près 30 ans. Ils ont été mal aimés, hein, mal aimés par le public, mais ils ont été mal aimés par la science. On a toujours exploité les requins sans se soucier de leur gestion. Et il y a un tournant, vraiment, ces 10-15 dernières années, à partir du moment où on a pu montrer le rôle écologique des requins dans les écosystèmes marins.
Là aussi, aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui permettent de bien connaître l'évolution et les déplacements de ces espèces.
Alors, effectivement, il y avait un domaine qui était pratiquement vierge, c'était le comportement. Alors, bien sûr, il y avait quelques observations à l'aquarium par les plongeurs, mais il y a une révolution technologique qu'on appelle les balises électroniques de toutes sortes, acoustiques ou satellitaires, et que ça a vraiment révolutionné le comportement animal. Mmh. Alors, on en met sur tout, on en met sur les requins. Et là, on a fait des progrès extraordinaires au cours des 10-15 dernières années.
Oui, ça voyage beaucoup, un requin ?
Alors, effectivement, par exemple, le requin blanc que tout le monde connaît, on le considérait comme un requin plutôt côtier, mais comme on voyait qu'il avait une répartition cosmopolite, il fallait quand même imaginer des migrations transocéaniques. Ça n'avait jamais été prouvé. Et grâce à ces balises électroniques, on a pu montrer une femelle qui a été marquée en Afrique du Sud, qui a été en Australie et qui est revenue quelques mois plus tard.
Oui.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est pas seulement qu'elle a voyagé géographiquement, c'est que pendant son voyage, elle descendait régulièrement à 1000-1200 mètres de profondeur. Et maintenant qu'on a un certain nombre de données sur différentes espèces de requins, on s'aperçoit que c'est un pattern assez régulier. Le requin baleine, qui est un requin d'eau chaude, lui aussi, au cours de ses migrations transocéaniques, descend à 1000-1500 mètres de profondeur. Alors, un requin qui vit à 26 degrés et qui descend là où la température est de 4 à 7 degrés, qu'est-ce qu'il va y faire? Alors, on a des hypothèses. On pense que c'est pour s'orienter sur le champ magnétique terrestre.
Bernard Serré, vous avez fait votre signature, vous aussi, vous allez la faire hein?
Alors, j'en ai déjà fait, oui. Bon. Mais on l'a fait encore samedi.
Eh bien, voilà. À quelle heure, donc, demain?
À l'heure du déjeuner, je crois.
Bien, on pourra aller sur le site du Livre de Paris. Merci au public de La Tête au Carré, ici, en direct du Salon du Livre. Merci à tous. Merci. Passez un très bon week-end. Tous les livres que nous avons évoqués sont sur le site de l'émission.